Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
À l'heure du grand pessimisme, de l'incessante déploration, des prédictions funestes, voici un livre revigorant, un livre qui d'une manière poétique et presque charnelle reprend ce que certains sages nous conseillent. Regardez ce qui vous entoure, toutes ces choses ordinaires dont on ne perçoit la beauté et la valeur que lorsqu'on les perd. Être là, dans l'instant, et se laisser envahir par l'émerveillement. Et justement, S'émerveiller est le titre de l'essai édité par Stock, et c'est que nous propose Belinda Cannon, qui déjà nous avait à ce micro encouragé à écouter les murmures de la vie. Belinda Cannon, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors votre ouvrage parle donc de l'émerveillement, mais je vais déjà dire qu'il est aussi émaillé de photos que vous commentez, décrivez, expliquez. Alors c'est des preuves à l'appui.
Exactement, ce sont des petits exercices d'émerveillement qui ponctuent chaque chapitre.
Oui, voilà. Alors, vous apportez une illustration à ce que vous dites. Vous dites faire la part de l'ombre et celle de la lumière.
Oui, j'ai cette espèce de conviction qui me soutient que si le monde ne va pas si bien et si le monde est violent et toutes ces choses qu'il nous faut affronter en permanence, dont il faut avoir... Enfin, dont nous avons malheureusement conscience, je crois aussi qu'il y a une part de beauté dans le monde, une part de bonté, et que si le monde tient, c'est parce qu'il y a une sorte d'équilibre. Alors c'est là que je suis dans une croyance, peut-être que j'ai tort, mais je veux croire à cet équilibre, et il me plaît de souligner aussi, souvent que possible, le fait qu'il y a une beauté dans le monde et qu'il nous appartient de la regarder.
Voilà, et d'en parler ou de l'écrire comme vous le faites. Vous dites d'ailleurs que le regard confère, ou du moins peut conférer, une importance unique aux choses.
Oui, parce que vous savez, on a souvent cette expérience que tout à coup, par je ne sais quelle grâce, nous voyons vraiment ce qui nous entoure. Ça peut être une chose très simple, ça peut être un arbre qu'on regarde par la fenêtre, ça peut être une lumière sur un objet du monde tout à fait humble. Et tout à coup, nous le voyons vraiment dans sa présence. Et nous sommes émerveillés, mais émerveillés par cette chose modeste. Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu écrire cet essai, parce que s'émerveiller devant le Mont-Saint-Michel, devant je ne sais quel édifice merveilleux, etc., c'est facile. Et ça ne demande pas d'état intérieur propice, c'est l'objet même qui est émerveillant. Tandis qu'arriver à s'émerveiller devant les petites choses du monde modeste, du monde humble, qui nous entoure constamment, ça demande un état intérieur.
Alors justement, vous ne nous donnez pas de trucs, pas de recettes, mais des conseils. Vous parlez de vigilance. Vous parlez de concentration, d'assiduité même.
Oui,
c'est vrai. Alors le mot assiduité, sur le moment, je me suis dit, elle n'a pas tort.
Oui, je dis assiduité parce que moi-même, je fais cette expérience. Par exemple, dans ma maison, j'ai une maison du Cotentin que j'aime beaucoup, que j'appelle ma maison des champs. Et face à mon bureau, il y a un chêne isolé dans un champ de l'autre côté de la petite route qui passe devant chez moi. Depuis des années, je regarde ce chêne sous toutes les coutures. C'est-à-dire, il y a une seule couture, à vrai dire, il est toujours au même endroit. Mais un jour, il y a une lumière favorable, un jour, il y a des chevreuils qui passent en dessous, un autre jour, le ciel est complètement chahuté. Et c'est par cette contemplation assidue que j'en perçois la beauté régulière, la beauté constante. Alors certains jours, ça m'émerveille, d'autres fois, je passe à côté sans vraiment le regarder. Mais voilà, il y a une concentration, assiduité. C'est un effort, d'une certaine façon, de se mettre dans le bon état pour pouvoir vraiment voir la beauté.
Si vous permettez, je vais lire un petit extrait. Justement, vous parlez de votre chaîne. Et en même temps, nos auditeurs apprécieront également la manière que vous avez d'écrire. « Ce matin, je contemple mon chêne, cette torche de temps pur qui se dresse à 200 ou 300 mètres devant la fenêtre du bureau dans ma maison des champs. La vision est d'autant plus nette que l'herbe à son pied est rase, ultime fenaison faite, et le soleil dissipe lentement la couverture de nuages légers. À mon lever, la brume de chaleur, un si doux septembre, le dissimulait tout à fait, tandis que l'arbre émergeait, le détail de sa ramure devenant de plus en plus net, la haie d'arbre du fond perdant son indistinction ombreuse. J'observais de l'autre côté du carreau deux mères cherchant leur nourriture, et je me suis sentie émerveillée par la beauté du chêne, du champ, des oiseaux noirs. par le silence ouaté et la solitude. Vous aviez déjà parlé le silence ouaté. On peut être émerveillé par le silence également, c'est vrai.
C'est vrai, oui, bien sûr. Il y a des qualités de silence qui nous permettent de nous replonger en nous-mêmes et qui sont donc pour cela émerveillantes.
Alors, cela demande une certaine disponibilité d'esprit quand même.
Oui. C'est sans doute pour ça qu'on n'y arrive pas si souvent. C'est sans doute pour ça aussi que je dis que l'émerveillement, c'est quelque chose qu'on trouve mais qu'on ne cherche pas. Tout à coup, on est dans le bon état et on est saisi par la beauté, par cette beauté humble. Mais on n'y est pas tout le temps dans ce bon état parce qu'on vit dans un monde qui nous incite à la dispersion, à la distraction. On passe beaucoup de temps dispersé, je dirais. Et c'est en ce sens que j'évoque la concentration. C'est contre cette dispersion de notre attention, du temps qui passe, il faut arriver à se replier en soi-même, à être suffisamment centré en soi-même pour regarder, pour lancer son regard vers l'extérieur. C'est un mouvement un peu paradoxal, qui est difficile à décrire, mais concentration en soi, contre la dispersion, et regard projeté vers l'extérieur. Et de temps en temps, on arrive alors à s'émerveiller.
Mais également, c'est vrai que parfois, il faudrait y penser. Il se trouve que je suis passée, il n'y a pas très longtemps, dans une rue de Toulouse, où j'étais petite fille, et j'ai dit à mon mari, mais ces maisons sont belles. Je les ai regardées avec un regard nouveau, alors que je les ai connues et reconnues. Mmh. Et finalement, tout d'un coup, on se dit, mais il faut faire attention. On ne pense pas à faire attention. Aussi.
C'est ça, faire attention, au sens premier. Oui. Faire attention, porter attention. Oui. C'est ça qu'on ne pense jamais à faire.
Oui, oui. Oui. Alors, oui, c'est ça, et un regard neuf, en fait. Moi, j'ai pensé un petit peu, alors, c'est des démarches un peu différentes quand même. C'est Christophe André, qui est venu plusieurs fois ici, parle de techniques de méditation. Il dit que ça demande une disposition intérieure. Et effectivement, tel que vous nous présentez, on pense quand même que nous sommes dans un état de bien-être. On arrive à un état de bien-être.
À l'émerveillement, c'est toujours un sentiment positif. Ben en oui. tout cas, on est sûr que ça appartient au domaine de la joie. Ça, c'est sûr.
Oui.
Mais vous savez, toutes les sagesses, finalement, que ce soit la méditation que défend Christophe André, les sagesses orientales, les sagesses, nos propres sagesses, toutes nous incitent à cet état intérieur d'apaisement et de concentration pour pouvoir jouir de la beauté du monde.
Oui, c'est, vous dites s'enlever au banal de soi. Ce n'est pas vous qui le dites, j'ai noté ça. Et la banalité des choses, c'est vrai, hein, on en revient à cela, on passe, c'est banal, on ne fait pas attention, on est occupé. Et vous le dites, hein, effectivement, il y a des moments où on ne peut pas avoir cet émerveillement, on est occupé. Mais il y a également une chose que vous dites, c'est que quand on est malheureux, on ne peut pas faire cette démarche-là. Pas vraiment.
Je dis toujours ça paraît idiot, mais je dis toujours que le malheur n'est bon à rien. Mmh. C'est-à-dire que dans l'état de malheur, quand nous sommes dans le malheur, nous ne pouvons ni nous émerveiller, évidemment, ni regarder vraiment, ni donner, ni regarder les autres, ni regarder le monde. Le malheur, c'est vraiment un mouvement qui nous fait nous replier sur nous-mêmes,
qui nous referme.
Alors évidemment, quand une fois qu'on a dit ça, bien sûr, personne n'a envie d'être malheureux, hein, évidemment. Mais bien sûr que dans le bonheur et dans la situation de concentration et d'ouverture, bien sûr que le malheur ne peut pas nous aider à regarder et qu'il faut être au mieux en soi-même pour pouvoir regarder le monde. Donc le travail sur soi, probablement, c'est d'essayer d'échapper autant que possible à l'ensevelissement dans le malheur.
Oui. En même temps, en sachant que même dans le malheur, on peut chercher, pas des choses positives dans le malheur, mais autour, chercher des choses positives peut-être.
Oui, bien sûr. Ben, tout ce qu'on peut apprendre et tout qu'on peut traverser et dépasser aussi, bien sûr, c'est très important.
Alors, et vous dites, ça m'a fait sourire, la stalactite de Dooling Cave, et vous dites que l'émerveillement peut être sublimé par l'étonnement. Et je crois que c'est dans cet endroit que vous avez en particulier, enfin vous le notez, vous avez été étonné, subjugué.
Oui, j'ai ce grand souvenir d'une visite donc dans une cave, dans une grotte, pardon, cave, ça veut dire grotte, où j'allais sans savoir ce que j'allais voir. Je suivais un peu les amis avec qui j'étais et on est descendu au fond de la grotte, etc. Et tout à coup, donc moi, ignorant vraiment ce que j'allais voir, tout à coup, le guide a allumé la lumière et là, on s'est trouvé devant une stalactite énorme, d'une beauté folle, une des plus vieilles stalactites qui continuait à se former.
C'est dans quel pays ?
En Irlande.
En Irlande,
oui, d'accord. En Irlande. Et donc là, évidemment, j'ai été émerveillée. C'est un souvenir d'émerveillement magistral. En même temps, j'ai donné l'exemple de cet émerveillement dans le livre, et en même temps, ça n'est pas de ça que je voulais parler dans ce livre. Parce que, évidemment, qu'on s'émerveille dans la stalactite monumentale, tout le monde peut s'émerveiller. Ce qui est plus difficile, c'est de s'émerveiller devant une petite lumière sur l'arbre qui est dans notre cour. Mmh. Parce que ça, c'est pas spectaculaire. C'est notre regard qui rend l'objet spectaculaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça.
Oui,
c'est...
Vous dites que les choses simples, les choses modestes, peuvent donner autant de, justement, de bonheur que la stalactite de Lily Cave.
Exactement. D'abord, les stalactites comme ça, ou les choses spectaculaires, on n'en voit pas tout le temps. Et puis surtout, ça ne demande pas de travail sur soi. Tandis que s'émerveiller devant les choses simples, ça oui, ça demande une disposition intérieure.
Alors, la question est de savoir, quand on s'émerveille, on a envie de partager.
Toujours.
Et oui, alors j'ai vu que vous faisiez usage du téléphone pour prendre des photos, et fréquemment. Ah, je me suis dit, quelle jeunesse.
Mais vous savez, je n'aime pas tellement prendre de photos, j'ai jamais aimé prendre de photos, j'ai quasiment jamais eu d'appareil photo, et il se trouve que, comme tout le monde, j'ai un téléphone qui prend des photos. Oui. Et donc, un beau jour, je me suis mise à photographier mon chêne, de l'autre côté du champ, donc. Et quand il me plaisait, quand il était beau, alors le photographier, ça voulait dire que j'attrapais cette chose qui sinon allait s'enfuir dans les minutes qui suivaient. Mais surtout, pourquoi je faisais ces photos, c'est parce que je pouvais immédiatement les envoyer à quelqu'un que j'aimais.
Partager ce bonheur.
Et tous mes amis connaissent mon chêne, même ceux qui ne sont jamais venus dans ma maison, parce que j'ai toujours envie de le partager. Et je ne sais pas si vous avez observé, c'est un mouvement tellement premier, tellement profond. Quand on est devant un spectacle émerveillant, si quelqu'un est à côté de nous, on ne peut pas s'empêcher de lui dire « regarde ». C'est-à-dire qu'on veut faire part. L'émerveillement, c'est un mouvement qui veut toujours faire part à l'autre. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est en ce sens que je dis qu'il est altruiste. C'est-à-dire qu'il se partage.
Alors là, c'est donc le partage par l'image, mais il y a le rôle de la langue et même de la culture dans l'émerveillement.
Oui.
Vous dites à un moment donné, ma culture me permet de jouir de la somptuosité de la montagne. La montagne en général, hein, là aussi, il ne s'agit pas d'un sommet extraordinaire.
Oui, ben je donne cet exemple.
Ça veut dire que vous faites appel également à des tas de notions ou à des tas de souvenirs de tirés de livres et autres, par exemple ?
Pas vraiment. Ce que je voulais dire pour la montagne, ce qui est très frappant, c'est que pendant des siècles, la montagne a été un lieu terrorisant, qui faisait peur.
Oui, et d'ailleurs, les tableaux étaient assez terribles souvent. Hein. C'était impressionnant.
La montagne suscitait l'effroi. Oui. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand il a commencé à y avoir des voyageurs qui traversaient les montagnes, Jean-Jacques Rousseau par exemple, qui traverse le Valais. Les voyageurs traversent la montagne et on commence à s'accoutumer à la montagne et on se met à la trouver belle. Mais avant ça, on aurait bien étonné quiconque en lui disant que la montagne était belle. Elle était seulement effroyable, elle provoquait de l'effroi. Donc je veux dire que nous avons des regards sur les choses qui sont évidemment transformés par la culture. Et la culture de la montagne, elle est assez récente finalement dans notre civilisation. Donc c'est en ce sens que je dis que c'est la culture qui me permet de l'aimer. C'est-à-dire, nous avons appris à aimer la montagne après avoir longtemps trouvé qu'elle était effrayante.
Mais en même temps, vous êtes bien d'accord. Moi je pense par exemple à des agriculteurs, des éleveurs plutôt dans les Pyrénées que je connais bien. Ils aiment leur pays, ils n'ont pas eu d'éducation à proprement parler par rapport à ça, mais ils savent voir les choses, je pense. Ils l'expriment pas.
Moi, je ne crois pas qu'il faille. Enfin, quand on est cultivé, hein, si vous me permettez l'expression, bien sûr qu'on a peut-être plus de sensibilité à des choses plus compliquées. Moi, je suis très sensible, je vous donne cet exemple, je suis très sensible à la langue de Racine, je le raconte.
On en parle, oui,
dans le livre,
c'est
vraiment la musique même de la langue, c'est la langue de Racine. Évidemment, c'est parce que j'ai été éduquée à ça, dès le lycée du reste, que j'ai pu apprécier ça. Mais je crois que pour s'émerveiller, il ne faut pas vraiment être éduqué. On peut s'émerveiller devant des choses simples. Et je pense que dans le monde paysan, justement, on avait l'habitude, on a toujours eu l'habitude aussi de s'émerveiller de certaines choses, peut-être parce qu'on prenait le temps de les regarder.
Oui, oui, oui. Mais justement, je fais le lien avec ce que vous dites également, apprendre à l'enfant la beauté des choses. C'est vrai qu'il y a un rôle éducatif auprès des enfants par rapport à ça.
Très important. Moi, j'ai le sentiment que j'ai appris à regarder parce que mon père nous emmenait en promenade et nous disait toujours « regardez ». À toute occasion, il nous disait « regardez, écoutez ouais. ». Et donc, on était formés à ça. À regarder. Et il savait qu'il fallait éduquer notre attention. Et il l'a fait.
Oui. Alors, justement, le fait est que l'enfant, en plus, vit dans l'instant. Et vous dites qu'il faut accepter la lenteur également dans l'émerveillement.
Oui. Vous savez, j'ai travaillé depuis des années, j'écris autour du désir de vivre, qui m'a toujours paru précisément une grâce. Le matin, nous nous levons, la journée n'est peut-être pas extraordinaire, et pourtant nous avons envie de la vivre. Ça, ce mouvement, cette énergie qui nous donne envie de vivre, me paraît vraiment la chose la plus extraordinaire qui soit et qui n'est pas certaine, qui n'est pas toujours donnée. Alors, bon, d'avoir pendant tant d'années travaillé autour du désir, et je continue à réfléchir à cette question, m'a amené ces dernières années à considérer que quand même, le désir, c'était aussi ce qui me permettait de faire beaucoup de choses, bien sûr, mais qui me projetait toujours dans l'avant. J'étais toujours deux pas en avant de moi-même, déjà dans la construction de ce que je voulais bâtir, créer, etc. Et tout à coup, je me suis dit que j'allais trop vite, que la joie, la grande joie, c'était ici et maintenant. Et que pour vivre ici et maintenant, c'est ça l'émerveillement, hein, c'est le pur présent. Eh bien, il fallait peut-être
se poser,
changer un peu, oui, s'arrêter, ralentir, être capable d'habiter le moment présent. C'est pas facile.
Non, en vous écoutant, je me dis que vous avez tout à fait raison, mais vous avez parlé du désir qui vous projette. Il en faut également, vous êtes d'accord?
Bien sûr, mais justement, il y a peut-être une négociation à avoir avec soi-même. Le désir, j'espère que je l'aurai toujours et que toujours je serai projetée dans cette action et dans cet avant. Mais maintenant, je me dis que ma grande affaire, ce serait d'apprendre à ralentir suffisamment pour arriver, de temps en temps, le plus souvent possible, à être vraiment ici et maintenant.
Vous dites aussi, ici est notre séjour, y porter le regard est le plus sûr remède contre le nihilisme. Alors, vous parlez d'une mystique sans Dieu. Alors, ça veut dire que vous ne pensez pas à un projet divin de création. L'univers est vide et indifférent.
Indifférent, je ne sais pas. Vide, ben, ça dépend. Peut-être que le ciel me paraît vide. En tout cas, ici, sur Terre, maintenant, parmi les humains, il y a de quoi faire, de quoi penser, de quoi sentir. Et c'est à ça que je m'intéresse.
Oui. Oui, non, parce
que. Je n'ai pas de vision transcendante, en tout cas, du monde. Je n'ai pas l'idée d'une transcendance qui nous dirigerait, commanderait, proposerait.
Oui, c'est ça. Je pensais, quand on est émerveillé, quelque chose qui coupe le souffle ou qui donne des sanglots, comme vous le dites si bien, c'est vrai qu'on se dit, c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose, une volonté de faire que les choses s'harmonisent et soient si belles. Vous me direz que l'inverse également, parce qu'il y a les guerres, il y a les souffrances, etc. Vous comprenez que ici on se pose la question, on se le dit.
Mais bien entendu, et je vous répondrai que je ne sais pas.
Voilà. Alors, ce que vous aimez également, c'est voir les traces du temps. Alors, à un moment donné, vous dites, je vais, si vous permettez, je lis un petit peu, mais vous lirez, je voudrais vous faire lire aussi quelque chose, là c'est quelque chose de très court. Je dis souvent des arbres qui sont des torches de temps pur. Alors, une parenthèse, vous aimez visiblement beaucoup les arbres.
Beaucoup, oui. Beaucoup, j'ai une passion pour les arbres, oui. Je leur ai consacré un chapitre tout entier.
Absolument.
Là.
Alors, je dis souvent des arbres qui sont des torches de temps pur. L'image est belle. Leur taille est liée à leur âge et au-delà de leur beauté plastique, le fait qu'ils incarnent, imboise, entre parenthèses, le temps fait à mes yeux leur prix et leur sacralité. Nul ne devrait pouvoir les couper à sa guise car nul ne peut être propriétaire du temps. C'est beau ce que vous dites là.
Oui, c'est ma grande idée. Pour moi, les arbres sont une des manifestations. Oui, cette torche, dans la nature, nous pouvons voir le temps incarné. Incarné n'est pas le bon mot, c'est pourquoi je propose un boisé pour essayer d'être au plus près de la matérialité de l'arbre. Mais je pense que ce sont des torches de temps. Et comment se fait-il qu'on puisse les couper? Moi, je suis vraiment très malheureuse quand j'entends les tronçonneuses entrer en action à l'automne dans ma région, je suis vraiment malheureuse. Et je me dis, mais de quel droit ? C'est du temps, le temps n'est pas à ce paysan ou à cet agriculteur qui est en train de couper l'arbre.
Alors, est-ce que vous avez entendu parler ? C'est une information tout à fait récente que j'ai eue. C'est que devant la Villa Médicis, il y a des pins, une très belle rangée de pins, paraît-il, que je ne connais pas. Vous connaissez ?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Eh bien, justement, on a été obligé de les couper, ou d'en couper, enfin, qui étaient dangereux. Voilà. Et tout le monde déplorait, justement. Et j'ai pensé à vous en lisant ça. Voilà.
Justement, parce que les arbres aussi, c'est ceux qui étaient avant nous et qui sera là après nous. Pour une partie, pour les arbres qui vieillissent, oui, qui savent vieillir. Et ça, pour moi, je m'en suis aperçue, je le savais confusément, et vous savez, quand on écrit, on prend conscience très, très intimement de choses qu'on sentait, pensait, sans se les dire jusqu'au bout. Et je me rends compte vraiment que le fait que nous soyons dans un monde où nous sommes précédés par des choses et qui nous succéderont et quand nous ne serons plus là, pour moi ça a du prix. Ça a du prix de pouvoir m'inscrire dans cette temporalité très longue. Et tout ce qui relève de cette temporalité très longue, je suis effrayée, je suis désolée quand on y porte atteinte.
Parce que ça nous remet aussi à notre juste place.
Exactement. Exactement, à notre juste place.
Bélina Canon, je vous propose une pause musicale et nous reprenons ensuite.
Le jour se lève et tu dors, mon amour. Moi, je te regarde, je ne prends pas garde à tes affaires en vrac. Tout autour, mon amour, le désordre, c'est ton style. Et le mien de t'écouter, endormi dans cette ville, respirer le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le jour se lève. Et je suis sur mes gardes. De quelle vie en rêve aurais-tu envie, dans l'ombre où se replie mon corps infini? Le silence, c'est ton style. Et le mien, c'est de tout dire. Quand je me sens près de toi en exil, le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Bélina Canon, qui a écrit un très bel essai sur un très beau thème, s'émerveiller. Effectivement, nous devons, je crois, enfin, c'est une injonction, je crois que c'est un souhait.
Oui, plutôt.
Émerveillons-nous, oui. C'est vrai que l'époque paraît difficile, mais finalement, est-ce que toutes les époques n'ont pas eu leurs difficultés? Parce que quelqu'un m'a dit, au début du siècle, du XXe siècle, c'était très dur. À la fin, en Afrique, regardez comment c'était. Au XIXe siècle, c'était pas mieux. Bon, on a toujours des périodes, et où que ce soit, finalement. On ne peut pas regarder que notre petit pays. Alors, s'émerveiller... est-ce que le souvenir peut réveiller encore l'émerveillement?
Oui, je crois l'avoir découvert, justement en écrivant ce livre. Je me suis aperçue que j'avais des souvenirs de voyage qui étaient plus forts, plus émerveillants dans le souvenir qu'au moment où je les vivais.
Ça, c'est tout à fait juste que vous dites, vraiment. Oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est détaché des aléas du voyage?
Oui, je crois que c'est ça. Je crois que quand on voyage, on le sait bien, on est toujours en train d'attendre un bus, un train, chercher un hôtel, et comment va-t-on faire tout à l'heure, et regarder la carte. Et du coup, on noie un petit peu quelque chose qui arrive pourtant en même temps et qui est l'émerveillement. Mais il est noyé dans les aléas du petit, oui, du voyage matériel. Et donc ensuite, lorsqu'on on se souvient du voyage et qu'évidemment on oublie tout ça, la chambre d'hôtel, le bus, le ticket de train, il ne nous reste plus que l'émerveillement, comme si quelque chose avait décanté et il, oui, ne restait plus que l'émerveillement. Et c'est surprenant ça, de se rendre compte que l'émerveillement était là, presque à notre insu.
Et c'est très bon, effectivement, de se remémorer et même de prendre des notes de ce que nous avons vécu, parce qu'on enlève les histoires de billets ou de passeports égarés, etc.
Voilà.
Et reste le plaisir.
Voilà, ouais, c'est ça.
Alors, quel est, selon vous, le contraire de l'émerveillement? Est-ce qu'il y a d'abord des gens qui ne s'émerveillent pas?
Oui, pensez... Je crois oui, qu'il y a vraiment des esprits chagrins, il y en a beaucoup même, qui sont incapables de s'émerveiller, qui n'ont jamais envie de s'émerveiller, qui ne sont jamais dans cette disposition. Il y a des mélancoliques qui aiment leur mélancolie, hein, qui la soutiennent, qui l'entretiennent. Donc l'émerveillement n'est pas... Bon, je vous dirai quand même une chose, depuis que j'ai publié ce livre dont je me disais... Ça ne va pas marcher, l'époque est tellement inquiétante, ça je le reconnais, pour moi-même elle est très inquiétante. Tout à l'heure vous disiez toutes les époques sont difficiles. Il me semble qu'aujourd'hui ce qui est difficile c'est même pas tant ce qu'on vit que ce qu'on va vivre. Il y a une inquiétude, oui, qui est liée à l'avenir immédiat.
Mais d'ailleurs, vous ne croyez pas qu'on a peur de retomber dans d'anciennes situations qui ont été terribles?
Peut-être aussi, en même temps, tout est tellement déroutant, tout ce qu'on vit, c'est tellement déroutant.
On perd des repères, là. Oui,
oui, on ne l'avait jamais imaginé. Moi, quand je pense à la fin des années 90, je me dis, mais ça, je ne l'avais jamais imaginé. Bref, donc on est dans ce moment extrêmement inquiétant pour les temps à venir, et je me disais, ce livre ne va pas du tout marcher parce qu'il est à contre-temps. Et puis finalement, je m'aperçois que souvent, quand je fais des signatures, des lectures, les gens viennent me voir et me disent, vous savez, oh, j'ai beaucoup aimé votre livre parce que vous savez, moi, je m'émerveille beaucoup. Et je suis très frappée de ça. C'est comme si, et vraiment je ne l'avais pas anticipé, mais c'est comme si se passait cette petite chose dans l'intimité des uns, des personnes, et qui tout à coup disent, ah ben vous en parlez, c'est bien, vous savez, moi je m'émerveille souvent. Alors peut-être que c'est beaucoup plus fréquent et cultivé que ce que je pensais ou que ce que je craignais, a priori, l'émerveillement.
Et on en a besoin?
Oui. On en a besoin comme de la joie, c'est ça, vivre, c'est aussi être capable de s'émerveiller.
Mais justement, vous ne trouvez pas que souvent, actuellement, il y a une forme d'indifférence justement aux petites choses. On en revient à ça, ce qui m'a plu également, c'est que vous disiez, mais dans le fond, bon, bah, il y aura un arbre, mais il y aura une petite fleur, il y aura bon, un chat qui passe, bon, moi c'est mon chat que j'ai vu avant de venir ici, que j'ai vu par la fenêtre, il était assis sur la table et regardait parce qu'il voulait rentrer dans la maison, et je l'ai trouvé très beau.
Et oui, il est les chats, ce sont des animaux d'une beauté. C'est vrai, un chat, c'est très émerveillant.
Oui.
C'est gracieux. Oui, c'est ça qui est quand même intéressant. C'est que cet émerveillement devant le monde modeste, on peut l'avoir tout le temps. On peut l'avoir si facilement. C'est là, c'est autour de nous. Et on ne le prend pas, on ne le voit pas. C'est tellement dommage. Mais c'est là, ça nous est offert tout le temps. Chaque jour, il y a matière à s'émerveiller.
Oui. Alors justement, tout à l'heure nous parlions d'éducation et moi j'ai l'impression, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que les jeunes ne s'émerveillent pas beaucoup.
On a un peu l'impression, alors vous savez, il y a quelque chose qui est le contraire. Tout à l'heure vous me disiez qu'est-ce que ce serait le contraire de l'émerveillement. Eh bien pour moi le contraire de l'émerveillement s'incarne aujourd'hui dans une pratique qui est de plus en plus répandue et qui m'affole, c'est le selfie. Vous savez, ces jeunes gens, ce jeune et moins jeune d'ailleurs...
Ce narcissisme appliqué.
Mais absolument. Qui se mettent devant n'importe quoi, soit devant un beau, bel objet, beau paysage, soit devant n'importe quoi, rien. Qui se photographient eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est absolument stupéfiant. Oui. Comme si on pouvait s'émerveiller de soi, c'est impossible. Oui. On ne peut s'émerveiller que de l'extérieur, de non-moi. Justement, c'est ce que un peu j'ai essayé de dire. Ce qui est émerveillant, c'est non-moi. Non-moi, c'est la nature, c'est l'être humain en face de moi, c'est la ville, la construction, mais
sortir
c'est non-moi.
Sortir de soi, comme vous le dites.
Sortir de soi. Pour s'émerveiller, il faut sortir de soi. Donc pour moi, je dirais que l'image du mouvement le plus contradictoire avec l'émerveillement, c'est la photo du selfie. Donc tout ce qui nous ramène à nous-mêmes et seulement à nous-mêmes nous empêche de nous émerveiller et souvent nous empêche tout simplement d'accéder à la joie. Et je ne dis rien d'autre depuis que j'écris, je crois, que sortir de soi. Pas parce que soi est haïssable ou méprisable, parce que soi n'est qu'un tremplin, à partir de quoi on peut s'ouvrir vers l'extérieur. Et la notion de hors de soi, bon, c'est pas la première fois que j'en parle, mais l'idée qu'il faut se porter hors de soi, à la conjonction, à la rencontre de ce qui n'est pas soi, c'est la condition de l'émerveillement, mais c'est aussi la seule manière de vivre et d'être dans le monde, je crois.
Oui. Vous voyez, et votre livre, merci d'ailleurs, m'a fait beaucoup réfléchir également justement par rapport aux jeunes que je rencontre. Et je me dis, mais où est-ce que l'on s'est trompé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'impression d'un tel ennui? Parce que c'est finalement envoyer sa propre photo, je reviens à ce que vous disiez. Quel ennui, quelle placidité, hein? Et puis oui, on va se photographier devant la Tour Eiffel, mais ça sera pas la Tour Eiffel, si tant est que ce soit un bel objet, mais pourquoi pas pour quelqu'un qui connaît, envoyer sa propre photo, c'est quand même...
Ouais. Ah oui, c'est affolant, moi je trouve ça incroyable.
Alors est-ce que ce repli sur soi n'est pas justement face à un monde qui n'a plus de repères, qui est angoissant?
Bien sûr, bien sûr. À l'heure des charges, je dois dire que je n'aimerais pas, à certains
être
égards,
jeune,
ah
jeune,
oui, avoir 20 ans aujourd'hui, je trouve ça très très inquiétant. Le monde qui les attend est très inquiétant, les outils qu'ils ont pour apprécier ce monde sont extrêmement pauvres, ce sont des écrans,
oui.
Ce sont des lieux, c'est très bien les écrans, je m'en sers tout le temps moi-même, hein, mais ce sont des endroits où on se perd, au lieu d'être concentré, rassemblé en soi-même, on est noyé dans l'écran. Et souvent, les jeunes n'ont que ce type de rapport avec le monde, où ils sont perdus dans la consommation d'un écran, d'images, etc. Donc oui, disons que, je ne sais pas si c'est nous qui avons fait une erreur, notre monde s'est bâti de telle sorte qu'il pousse à un repli narcissique et à la dispersion, à la dilution de soi. Alors qu'il faut au contraire être suffisamment en soi, c'est toujours ce mouvement paradoxal que je disais tout à l'heure, être suffisamment en soi, calé en soi, pour pouvoir porter le regard vers l'extérieur.
Oui, et c'est vrai aussi que ce que vous dites à un moment donné, l'émerveillement stimule et entraîne un désir de connaissance.
Oui. Ça, les Grecs le disaient déjà, lorsqu'ils parlent de l'étonnement philosophique, hein, la connaissance vient de ce que nous regardons les choses et nous nous étonnons de ce qu'elles soient là et de la manière dont elles sont faites. Donc cette dimension de la connaissance qui suit l'étonnement, l'admiration, l'émerveillement, est déjà dans la pensée grecque. Et alors parfois, pas toujours, mais c'est vrai que parfois, l'émerveillement nous donne envie d'en savoir plus. Alors évidemment, quand je regarde mon chêne ou le chat qui passe, je sais déjà tout, si je puis dire. Mais en revanche, quand je vois la stalactite ou bien certains arbres dont je parle, j'ai tout de suite envie de savoir comment ils s'appellent, d'où ils viennent. Quand j'entends un oiseau chanter, je lui dis toujours « Mais qui es-tu, toi ?» Et malheureusement, il ne me répond pas. Mais j'ai envie de savoir son nom.
Alors, justement, vous parlez... Allez, parlons encore d'arbres. Il y a ce Ficus macrophylla qui est passionnant. Et vous en parlez... Alors, si vous voulez bien, Belinda, voilà, à la page 117 et jusqu'à la page un peu... j'ai fait une croix, vous pourrez lire. Alors, il s'agit d'un Ficus macrophylla et vraiment, là, vous vous émerveillez.
Au cœur de Palerme, sur la Piazza Marina, le petit Giardino Garibaldi se déploie autour d'un arbre immense et somptueux, un ficus macrophylla âgé, dit-on, de 150 ans. Comme la stalactite, un jour ce fut pour moi une apparition. Dérivant lentement dans la ville, les yeux aux aguets, mais sans attente particulière, sachant que la surprise peut jaillir n'importe où et donc acceptant les temps morts et les visions banales qui accompagnent tout voyage, je fus saisi devant lui d'un sanglot sec, comme il m'en est parfois venu devant les arbres exceptionnels.
Voilà, alors, oui, vous parlez de sanglots, l'émotion qui étreint et qui est positive là aussi. Alors, on pourrait... énumérer sur les objets, les choses, les situations sur lesquelles on peut s'émerveiller. Vous parlez évidemment de la beauté de l'univers, de la beauté de la nature. Il y avait le passage sur les oiseaux que j'aime beaucoup, sur les arbres. Vous expliquez sur les jeunes animaux, mais je me suis dit, oh, les jeunes animaux, les jeunes serpents, est-ce que vous allez vous émerveiller? Peut-être pas. Vous parlez également, et ça aussi, c'est bien d'en parler, je trouve, des œuvres des hommes, des exploits scientifiques. Maintenant, on a l'impression que beaucoup de gens ne s'intéressent plus à ce qui se passe quand on envoie quelqu'un, enfin bon, si, il y a un Français, parce que c'est un Français, mais sinon, on s'en occupe plus trop. Et évidemment, l'art. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'art? C'est une source continuelle d'émerveillement.
Bien sûr, parce que c'est le lieu d'une invention, de propositions constamment nouvelles. C'est le lieu de la recherche de la beauté aussi. Oui. Et donc, on est évidemment qu'on s'émerveille oui. souvent devant les œuvres d'art. Je dirais presque qu'elles sont faites pour ça.
Bien sûr. Et vous parlez de la beauté des vers de Racine, du haïku. Évidemment, on se régale, on a bonheur de le dire, ces petits poèmes très courts. Vous parlez également de la musique et vous parlez des hommes. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que figurez-vous que récemment, j'ai vu le film Sully, le film de Clint Eastwood, et j'y allais un peu à reculons parce que d'abord, je connaissais la fin de l'histoire, c'est une histoire d'avion, bon, je me passionnais pas. Et j'ai été subjugué, d'une part parce que c'est un film très bien fait par un homme qui a plus de 80 ans, hein, Clint Eastwood, et le film est très émouvant, et parce que le héros, c'est un vrai héros, puis c'est une histoire vraie, c'est l'atterrissage, l'amérissage sur l'Hudson de cet Airbus dont tous les moteurs sont arrêtés. Mmh. Et c'est Chesley Sullenberger, je l'ai écrit hein, parce que le nom je connais, qui était le pilote, un monsieur d'ailleurs d'un certain âge, un pilote également de planeur, qui a osé et qui a pris ses responsabilités et qui a fait. Et c'est un héros extrêmement modeste. Et vous en parlez de ces héros modestes. Justement.
Oui, on a toujours tendance à associer l'héroïsme à un courage extraordinaire, à un grand fait d'armes ou je ne sais quoi. Moi, je ne crois pas que ce soit ça l'héroïsme. L'héroïsme du XXe siècle, c'est un héroïsme que j'appellerais... J'ai intitulé mon chapitre « Modestie du sublime ». Et cette modestie du sublime, c'est celle qui concerne les actions héroïques. Je parle, j'évoque pour quelqu'un qui pour moi est une des très grandes héroïnes du XXe siècle, qui est Germaine Tillion.
Bien sûr.
Quand on regarde ce qu'a fait Germaine Tillion, que ce soit en Algérie, lorsqu'elle allait faire là-bas des recherches d'anthropologie, que ce soit Ravensbrück, dans le camp de concentration où elle était, c'est modeste ce qu'elle a fait. Les actes qu'elle a commis, c'était pas des grands faits d'armes, c'était une succession de petites choses assez modestes et qui sont de l'héroïsme à proprement parler, parce qu'ainsi, elle aidait les autres et sans considération pour elle-même. Hein, ce qui l'intéressait, c'est ce qu'elle allait apporter aux autres.
Vous parlez également de cet homme que je ne connaissais pas, Landmesser, un Allemand, et sur une photo où on voit tous les hommes pendant le régime nazi lever le bras à Hitler, lui ne lève pas le bras. Et effectivement, alors je ne sais pas comment on a retrouvé son nom, mais ne pas lever le bras à ce moment-là, c'était un signe d'un courage extrême.
Et en même temps, notez que croiser les bras... ça peut pas être beaucoup plus simple, pardon, comme geste.
Oui,
croiser
absolument.
Les bras. Il s'est juste contenté de croiser les bras, mais simplement croiser les bras dans une foule qui fait tout entière le salut à Hitler, évidemment, c'est de l'héroïsme. Mais c'est ça que j'appelle modestie du sublime. Croiser les bras, ça n'est pas renverser 14 chars. Non, c'est simple. Et parfois, l'héroïsme, c'est des petites choses simples comme ça. C'est cacher quelqu'un dans sa cave, par exemple, quelqu'un qui est poursuivi.
Oui.
Donc, l'héroïsme, ça ne demande pas des grands faits extraordinaires, ça peut être des choses très simples et en ce sens elles sont émerveillantes et je voulais en parler dans ce livre.
Et à nous de savoir reconnaître ce qu'il y a de merveilleux dans ces comportements, dans ces choses toutes simples justement.
Voilà.
Bélina Cannon, un grand merci. Merci et je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit donc d'un essai sur l'émerveillement qui s'intitule S'émerveiller. Alors aux éditions...
Stock,
aux éditions Stock, voilà. Merci encore.
Merci à vous.